Divet Terola. Couple et alerte.
Si tu n'as rien à lui dire, tais-toi, fais pas tous ces efforts, reste au bout de la table, mange en silence. Le bruit de ta fourchette t'obsède, les bruits de sa déglutition t'énervent, les bruits de ta déglutition te glacent et le bruit de ton couteau aussi. Essaie de manger plus silencieusement, ça va mieux. Mais la radio, ça fait un bruit de fond, ça peut justifier ton silence. Parle au chien, il n'y en a pas. Parle à l'enfant, il n'y en a pas non plus. Tant mieux. Demande-lui ce qu'elle a fait aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas, c'est tous les jours la même chose. Parle de ton travail, tu n'as rien à en dire. Dis-lui que son repas est bon, tu ne trouves pas. Souris-lui, c'est impossible, c'est trop tendu. Lève-toi, va chercher le poivre, ça détendra l'atmosphère. Tu as peur de t'encoubler, de renverser quelque chose. Alors mange. Tu n'as plus faim. Alors sors vite de table, va allumer la télévision. Quand le programme sera fini, va vite à la salle de bain, puis couche-toi et fais semblant de dormir. Si c'est elle qui se lave et se couche en premier, lis un livre jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ce sera encore une journée de gagner. Oh. Oh non, ça suffit. Peu de tendresse, hein. Une chanson d'amour. Une chanson d'amour? Si c'est vrai que je t'aime encore, tu dois quand même te secouer. Si tu crois que l'amour ça roule sans avoir besoin de pousser, mon cher amour, vois-tu, te trompes. J'ai tellement pris l'habitude de te voir là à mes côtés, que même si tu me réprimandes en me sommant de mieux t'aimer, je me dis que tu fais des scènes. Ne crois pas que si le silence s'installe dans notre maison, le temps se charge d'arranger les désordres de nos mésententes. Pas passer des jours entiers à refuser de nous parler, ne dormons plus ensemble si ça devient routine. Fuyons l'ennui avant qu'il vienne. Si on faisait vraiment l'amour, si on prenait une fois le temps. On dit qu'on n'a plus peur du vide, qu'on n'a pas peur d'être frigide. Ne sois pas si pressé, attends. Ce serait beau si tu étais doux, ce serait beau si on changeait tout. Ce serait beau si tu m'étonnais, ce serait beau si je te surprenais. Quotidien, nous retrouverons l'envie de rien. Mais on a fait un bout de chemin, on a fini de s'entraver. On va pouvoir se regarder.
Attente, souffrance douce, d'un soir où, guettant le bruit de ton pas, je parcours douloureusement les quelques minutes qui nous séparent encore. C'est un poème de Jacqueline Gros-Claude.
De
devant moi et j'ai vu par ma foi dans tes yeux le diable. J'aime ton diable, il remue au fond de moi des histoires d'autrefois qui me font quelquefois pleurer. J'aime, tu es ma foi, parfois tout contre moi, et c'est de bonne foi que tu dis que tu m'aimes. Je reconnais bien là ma mauvaise foi quand je dis que dans tes bras toutes les fois j'ai connu la joie. Ce n'était pourtant pas chinois, malgré tous les efforts que tu déploies, tu es, je crois, encore une fois d'une famille qui en bouffe à s'en faire répéter dans la soie. Je ne serai plus ta proie, je vais te dire une bonne fois, je ne suis plus une oie. Des gaillards comme toi, ils ont beau dans leurs yeux faire briller le diable, ils sont tous aisés, ma profession de foi, des enfoirés de première.
C'était Yvette Terola qui chantait « Ma foi », un enregistrement public. Radio Pleine Lune, la radio des femmes. Nous émettons sur Radio Zone. Ce soir, l'émission était dédiée à l'amour. L'amour écrit, mis en musique, chanté par des femmes. Et pour finir, Laurie Anderson dans Sweeter.
I no longer love your mouth. I no longer love your eyes. I no longer love your eyes. I no longer love the color of your sweat, too. I no longer love it. I no longer love the color of your sweaters. The way you hold your pen and pencil. I no longer love it.
Cette émission, nous vous proposons une nouvelle de science-fiction. Il s'agit de la nouvelle de Joanna Russ, Lorsque tout changea, qui a été publiée dans l'anthologie de Marianne Lecomte, Femmes au futur, aux éditions Marabout. L'action se passe sur Tempassé, à bien des millions de kilomètres d'ici.
Cathy roulait comme une folle. Nous avions bien dû prendre ses virages à du 120 km à l'heure. Elle est habile pourtant, extrêmement habile. Et je l'ai déjà vue démonter et remonter entièrement une voiture en un jour. Mon lieu de naissance, sur temps passé, était uniquement équipé de machines agricoles et je refuse d'utiliser ces engins à 5 vitesses, n'ayant pas été élevée ainsi. Mais même dans ces tournants au milieu de la nuit, Sur une infecte route de campagne, comme on en trouve seulement dans notre district, sa manière de conduire ne me frayait pas. Un drôle de détail à propos de ma femme, pourtant. Elle ne porte jamais d'armes. Elle est même partie camper dans les forêts au-dessus du 48e parallèle pendant plusieurs jours, sans armes à feu. Et cela me fait peur. Ensemble, Cathy et moi avons 3 enfants. Un à elle et 2 à moi. Yuriko, mon aînée, s'était endormie sur le siège arrière et rêvait d'amour et de guerre, ainsi qu'on le conçoit à 12 ans. Elle courait vers la mer, chassait dans le nord, rêvait de gens étrangement beaux, vivant dans des endroits qui ne l'étaient pas moins. Toutes ces visions merveilleuses que l'on imagine quand on va atteindre ses 12 ans et que les glandes commencent à fonctionner. Bientôt, comme nous toutes, elle disparaîtra pendant des semaines pour revenir crottée et fière, ayant poignardé son premier cougar ou descendu son premier ours, tirant la dépouille d'une bête épouvantablement dangereuse derrière elle, à qui je ne pourrais jamais pardonner ce qu'elle aurait pu faire à ma fille. Yuriko prétend que la manière de conduire de Cathy l'a fait dormir. Pour quelqu'un qui a survécu à 3 duels, beaucoup trop de choses me font peur. Ce doit être l'âge. C'est ce que j'ai dit à ma femme. « Tu as 34 ans, » me répliqua-t-elle, laconique jusqu'au silence. Elle alluma les phares sur le tableau de bord. 3 kilomètres encore, et l'état de la route ne faisait qu'empirer. Un coin reculé. Des arbres d'un vert électrique se précipitaient dans les lumières, disparaissaient autour de la voiture. Je me penchai vers le râtelier d'armes fixé à l'intérieur de la portière et basculai mon fusil sur ma cuisse. Yuriko s'étira à l'arrière. Ma taille, mais les yeux, le visage de Cathy. Le moteur de la voiture est si silencieux, remarqua Cathy, que l'on peut entendre respirer sur le siège arrière. Yuki se trouvait seule dans la voiture quand arriva le message et elle décoda avec enthousiasme les brèves et les longues. C'est idiot de monter un émetteur-récepteur à haute fréquence près d'un moteur à combustion interne, mais presque tout sur temps passé fonctionne à la vapeur. Puis elle s'était précipitée hors de la voiture, ma jeune perche vigoureuse, criant à faire éclater les poumons, aussi bien sûr se devait-elle de nous accompagner. Depuis la fondation de la colonie, depuis qu'elle avait été délaissée, nous étions intellectuellement préparés. Mais ceci est différent. C'est terrifiant. Des hommes, avait hurlé Yuki en franchissant la portière de la voiture. Ils sont revenus, de vrais hommes de la terre. Nous les rencontrâmes dans la cuisine de la ferme, près de l'endroit où ils avaient atterri. Les fenêtres étaient ouvertes tant la nuit était douce. Nous avions dépassé toutes sortes de moyens de transport quand nous arrêtâmes la voiture dehors. Des tracteurs à vapeur, des camions, une camionnette à plateforme, même une bicyclette. Lydia, la biologiste du district, s'était extraite suffisamment longtemps de sa morosité nordique pour prélever des échantillons de sang et d'urine et, assise dans un coin de la cuisine, secouait la tête d'étonnement devant les résultats. Elle s'était même contrainte, très belle, très grande, très timide, piquant souvent de pénibles coups de phare, à exhumer les anciens manuels de langage, bien que je puisse parler ces vieilles langues dans mon sommeil, ce que je fais. Lydia était mal à l'aise avec nous. Nous venons du sud et sommes trop voyantes pour elle. Je comptais 20 personnes dans cette usine. Tous les cerveaux du continent nord. Phyllis Pett, je crois, était arrivée en planeur. Yuki était la seule enfant présente. Puis je les aperçus tous les 4. Ils sont plus grands que nous, plus grands et plus larges. 2 me dépassaient en hauteur, malgré mon 1,80 m pieds nus. Ils appartiennent visiblement à notre espèce, mais différents pourtant, indescriptiblement différents. Et mes yeux ne pouvaient pas et ne peuvent toujours pas comprendre les lignes de ces corps étrangers. Je ne pus alors me forcer à les toucher, bien que celui qui parlait russe, quelle voix ils ont, voulut me serrer la main, une habitude du passé, j'imagine. Je peux seulement dire qu'ils ressemblaient à des singes aux visages humains. Il paraissait bien intentionné et je reculai d'horreur sur presque toute la longueur de la cuisine. Puis je ris pour m'excuser. Et afin de montrer le bon exemple d'amitié interstellaire, pensais-je, je finis par lui serrer la main. Une main dure, très dure. Ils sont lourds comme des chevaux de trait, des voix profondes, voilées. Yuriko s'était faufilée parmi les adultes et fixait les étrangers, la bouche ouverte. L'homme tourna la tête. Ce mot ne fait plus partie de notre vocabulaire depuis 600 ans. Et dit en mauvais russe. Qui est-ce ? Ma fille, répondis-je et j'ajoutai, avec ce respect irrationnel pour les bonnes manières que nous manifestons parfois dans les moments d'insanité. Ma fille, Yuriko Janetson. Nous nous servons du patronyme. Vous diriez matronyme. Il rit nerveusement. Yuki s'exclama. Mais je pensais qu'ils étaient beaux, profondément déçue de l'accueil qu'elle avait reçu. Phyllis Helgason Speth, que je tuerai un jour, me lança à travers la pièce un regard froid, soutenu, venimeux, qui disait « Fais attention à ce que tu dis, tu sais ce dont je suis capable. » Il est vrai que je n'occupe qu'une petite position officielle, mais Madame la Présidente se prépare à de sérieux ennuis, à la fois avec sa propre équipe et avec moi, si elle continue de considérer l'espionnage industriel comme une franche rigolade. Guerre et rumeur de guerre, comme il est dit dans un de nos livres de nos ancêtres. Je traduisis les paroles de Yuki dans le mauvais russe de l'homme, autrefois notre langue véhiculaire, et l'homme rit de nouveau. Où sont tous vos gens ? Demanda-t-il sur le ton de la conversation. Je traduisis encore et observai les visages autour de moi. Lydia avait l'air embarrassée comme d'habitude. Speth rétrécissait les yeux sous une nouvelle machination et Cathy paraissait très pâle. « Ceci est temps passé, » dis-je. Il n'eut pas l'air de savoir. « Temps passé, » répétai-je. « Cela ne vous dit rien ? N'avez-vous pas d'archives ? Il y a eu une épidémie à temps passé. » Il parut modérément intéressé. Les têtes pivotèrent vers le fond de la pièce et j'entrevis la déléguée locale du Parlement professionnel. Dès le lendemain matin, chaque assemblée de la ville, chaque comité de district allait être en pleine réunion. « Une épidémie ? » reprit-il. « C'est très regrettable. »« Oui, dis-je, très regrettable. Nous avons perdu la moitié de notre population en une génération. » Il parut passablement impressionné. « Temps passé a eu de la chance, dis-je. Nous représentions initialement un important éventail de gènes. Nous avons été choisis pour notre extrême intelligence. Nous avons atteint un haut degré de technologie et parmi la vaste population restante, chaque adulte représentait 2 ou 3 experts en un. La terre est bonne. Le climat est merveilleusement facile. Nous sommes 30 millions à présent. Les choses commencent à faire boule de neige dans l'industrie. Est-ce que vous comprenez ? Donnez-nous encore 70 ans et nous aurons plus qu'une vraie ville, plus que quelques centres industriels. Nous exercerons nos professions toute la journée. Nous aurons des techniciens radio, des mécaniciens travaillant à plein temps. Donnez-nous 70 ans et tout le monde ne devra plus passer les 3/4 de sa vie à travailler dans une ferme. J'essayais d'expliquer combien il était pénible pour les artistes de devoir attendre leur vieux jour pour pouvoir pratiquer leur art toute la journée. Alors qu'il y en avait si peu, tellement peu, qui pouvaient être libres comme Cathy et moi. Je tentais d'exposer aussi les lignes générales de notre gouvernement, les deux chambres, la professionnelle et la géographique. Je lui démontrais que les comités de district s'occupaient de problèmes trop importants pour les villes individuelles et que le contrôle de la population n'était pas une question de politique, pas encore, bien qu'avec le temps, elle le deviendrait. Cette question de temps constituait un point délicat de notre histoire. Il n'y avait pas d'urgence à sacrifier la qualité de la vie à une course démente vers l'industrialisation. Que l'on nous laisse aller à notre propre vitesse, que l'on nous donne le temps. Où sont tous les gens ? Répéta ce monomaniaque.
Je compris alors qu'il ne voulait pas dire « gens », mais « hommes ». Et qu'il donnait à ce mot la signification qu'il n'avait plus eue sur temps passé depuis 6 siècles. Ils sont morts, dis-je, il y a 30 générations. Je crus alors que nous l'avions assommé. Il cherchait sa respiration. Il fit comme s'il voulait s'extirper de la chaise sur laquelle il était assis. Il porta sa main à sa poitrine et nous regarda avec le plus curieux mélange de respect et de tendresse sentimentale. Puis il prononça avec solennité et sérieux : « Une grande tragédie. » J'attendis, ne comprenant pas bien. « Oui, oui, dit-il, en reprenant son souffle avec un sourire singulier, le sourire d'un adulte envers un enfant qui annonce qu'une surprise a été préparée et sera bientôt produite avec des cris d'encouragement et de joie. Une grande tragédie. Mais c'est terminé. Et de nouveau, il nous considéra toutes avec la plus grande déférence, comme si nous étions des invalides. Vous vous êtes admirablement adaptés, remarqua-t-il. À quoi ? Demandai-je. Il parut embarrassé. Il eut l'air stupide. Finalement, il ajouta : D'où je viens, les femmes ne s'habillent pas ainsi, simplement. Comment, vous ? Demandai-je. Comme une mariée ? Car ces hommes portaient de l'argent de la tête aux pieds. Je n'avais jamais rien vu d'aussi fastueux. Il s'apprêta à répondre, puis apparemment se ravisa et se contenta d'éclater de rire. Avec une étrange gaieté, comme si nous représentions quelque chose de puéril et de merveilleux, et qu'il allait nous faire une faveur immense, il expira faiblement en nous disant « Eh bien, nous sommes là. » Je regardai Spète. Spète regarda Lydia. Et Lydia regarda Amalia, qui était le chef local du comité municipal. Amalia regarda je ne sais qui. J'avais la gorge sèche. Je déteste la bière locale que les fermières absorbent comme si leur estomac était doublé d'iridium, mais j'acceptais celle que m'offrit Amalia. C'était sa bicyclette que nous avions aperçue dehors, et la vidait entièrement. Tout ceci allait prendre beaucoup de sens, beaucoup de temps. « Oui, vous êtes là, » dis-je en souriant. Je me sentis ridicule. Et je me demandais sérieusement si les cerveaux des terriens mâles fonctionnaient si différemment des cerveaux des terriens femelles, ce qui ne devait pas être possible, sinon la race se serait éteinte depuis longtemps. Le réseau radio avait diffusé la nouvelle sur toute la planète à l'heure qu'il était, et une autre traductrice russe arriva de Varna par air. Je décidai de couper court quand l'homme montra des photos de sa femme qui ressemblait à une prêtresse appartenant à quelque culte ésotérique. Il se proposait d'interroger Yuki. Aussi l'enfermai-je dans une pièce arrière malgré ses protestations de fureur. Puis je sortis sous le porche devant la maison. Quand je quittai la cuisine, Lydia expliquait la différence entre la parthénogenèse, ce qui est si simple que tout le monde peut l'appliquer, est ce que nous pratiquons, c'est-à-dire la fusion des ovules. C'est pourquoi le bébé de Cathy me ressemble. Lydia poursuivait avec la méthode Hansky mise au point par Cathy Hansky, notre génie multimate et l'arrière-arrière, je ne sais combien de fois, arrière-grand-mère de ma Katharina. Un transmetteur de signaux caquetait faiblement dans une des annexes. Des opératrices devaient flirter et se raconter des blagues sur la ligne. Il y avait un homme sous le porche, l'autre homme de grande taille. Je l'observais pendant plusieurs minutes. Quand je le veux, je peux me déplacer très silencieusement et au moment où je lui permis de m'apercevoir, il cessa de parler dans la petite machine qui pendait autour de son cou. Puis il dit calmement, dans un russe excellent, « Saviez-vous que l'égalité sexuelle a été réhabilitée sur Terre ?»« Vous êtes le vrai, n'est-ce pas ? » demandai-je. « L'autre est là uniquement pour la parade. » Je me sentis soulagée d'avoir tiré les choses au clair. Il inclina la tête avec courtoisie. En tant que monde, nous ne sommes pas très intelligents, dit-il. Il y a eu trop de dégâts génétiques au cours de ces derniers siècles dus aux radiations, aux drogues. Nous pourrions nous servir des gènes de temps passé, Jeannette. Les étrangers n'appellent pas les inconnus par leur prénom. Vous pouvez avoir suffisamment de cellules pour vous noyer dedans, répliquai-je. Vous n'avez qu'à reproduire les vôtres. Il sourit. Ce n'est pas ainsi que nous voulons procéder. Derrière lui, j'aperçus Cathy s'encadrer dans le cadre de lumière de la porte grillagée. Il poursuivit avec modestie et affabilité, sans se moquer de moi pourtant, mais avec l'assurance de quelqu'un qui a toujours eu l'argent et la force de son côté et qui ignore ce que c'est d'être médiocre ou provincial. Ce qui est très curieux, parce que la veille, j'aurais juré que cette description s'appliquait exactement à moi. « Je m'adresse à vous, Jeannette, » dit-il, « parce que je soupçonne que vous exercez ici une influence plus populaire que n'importe qui d'autre. Vous savez aussi bien que moi que la culture par parthénogenèse présente toutes sortes de défauts inhérents et nous n'avons pas l'intention, si nous avons la possibilité, de nous servir de vous pour quoi que ce soit dans ce sens. Excusez-moi, je n'aurais pas dû employer le mot « servir ». Mais vous pouvez certainement comprendre que ce type de société est anormal. L'humanité est anormale, répliqua Cathy. Elle portait mon fusil sous son bras gauche. Le sommet de sa tête soyeuse ne m'arrive pas tout à fait à la clavicule, mais elle est aussi dure que de l'acier. L'homme s'anima avec cette même déférence souriante que son compagnon m'avait témoignée, mais pas à lui. Et le fusil glissa dans la main de Cathy comme si elle s'en était servie toute sa vie. « Je suis d'accord, approuva l'homme. L'humanité est anormale. Je devrais le savoir. J'ai du métal dans les dents et une agrafe métallique ici. » Il toucha son épaule. « Les phoques sont des animaux de harem, ajouta-t-il, et les hommes aussi. Les singes s'accouplent au hasard, et les hommes aussi. Les tourterelles sont monogames, et les hommes aussi. Il y a même des hommes célibataires et des homosexuels. Je suppose qu'il existe des vaches homosexuelles. Mais il manque quelque chose à temps passé. » Il eut un ricanement sec, que je mis sur le compte de ses nerfs. Il ne me manque rien, répliqua Cathy, sauf que la vie n'est pas éternelle. Vous êtes, demanda l'homme en hochant la tête de l'une à l'autre. Femme, répondit Cathy, nous sommes mariés. De nouveau ce ricanement sec. Une bonne combinaison économique, remarqua-t-il, pour travailler et élever les enfants. Et un arrangement qui en vaut un autre pour perpétuer au hasard l'hérédité. Si le but de votre reproduction est de recopier le même modèle. Mais ne pensez-vous pas, Catherine Michaelson, que vous pourriez procurer à vos filles un sort plus enviable? Je crois aux instincts, même chez l'homme, et je ne peux pas croire que vous deux, vous êtes mécanicienne, n'est-ce pas? Et je suppose que vous, vous remplissez les fonctions de chef de la police. Ne ressentiez pas, d'une certaine manière, ce qui vous manque? Vous le savez, intellectuellement, bien sûr. Il n'y a qu'une demi-espèce ici. Les hommes doivent revenir à temps passé. Cathy ne répondit pas. Il me semble, Katharina Michaelson, poursuivit l'homme gentiment, que vous, plus que tous les autres, bénéficierez d'un tel changement. Et il frôla le fusil de Cathy en se dirigeant vers le carré de lumière de la porte. Je crus que ce fut alors qu'il découvrit ma cicatrice. Elle ne se voit que dans la lumière frisante, cette ligne mince qui va de la tempe au menton. La plupart des gens ne la remarquent même pas. « Où avez-vous reçu cela ? » demanda-t-il. Je répondis dans un sourire involontaire, « Au cours de mon dernier duel. » Nous nous toisâmes pendant quelques secondes, ce qui est absurde mais vrai. Jusqu'à ce qu'il rentrât à l'intérieur, en refermant la porte écran derrière lui. Cathy s'écria d'une voix cassante. « Espèce d'imbécile, n'as-tu pas compris que nous avions été insultés ?» Elle épaula son arme et voulut tirer à travers la porte moustiquaire, mais je l'atteignis avant qu'elle ne fît feu et détournai le canon de son but. La balle se logea dans le plancher du porche. Cathy tremblait. Elle répéta sans cesse « Voilà pourquoi je ne voulais jamais y toucher, parce que je savais que je tuerais quelqu'un, je savais que je tuerais quelqu'un. » Le premier homme, celui avec qui je m'étais entretenu d'abord, parlait toujours à l'intérieur de la maison et expliquait le vaste mouvement de recolonisation et de redécouverte entrepris par la terre pour gagner ce qu'elle avait perdu. Il souligna les avantages qu'en retirerait temps passé concernant le commerce les échanges d'idées, l'éducation. Il ajouta également que l'égalité sexuelle avait été rétablie sur Terre.
Você pagou para mim.
Cathy avait raison, évidemment. Nous aurions dû les descendre là où ils se trouvaient. Les hommes arrivent à temps passé. Quand une culture possède les gros canons et l'autre pas, le futur peut se prévoir assez facilement. Il est probable que d'autres hommes seraient venus par la suite de toute façon. J'aime penser que dans une centaine d'années d'ici, mes arrière-arrière-petits-enfants auraient pu les refouler ou les immobiliser, mais cela non plus n'est pas certain. Je me souviendrai toute ma vie de ces quatre premiers hommes que j'ai rencontrés, qui étaient musclés comme des taureaux et qui me donnaient l'impression, même pour un instant, d'être petite. Une réaction neurotique, prétend Cathy. Je me souviens de tout ce qui s'est passé cette nuit. Je me souviens de l'excitation de Yuki dans la voiture. Je me souviens des sanglots de Cathy quand nous rentrâmes à la maison, comme si son cœur allait se briser. Je me souviens de la manière dont elle fit l'amour, un peu péremptoire comme toujours, mais merveilleusement apaisante et réconfortante. Je me souviens d'avoir erré fébrilement dans la maison. Après que Cathy s'était endormie, un bras nu baignant dans une tache de lumière venant du hall. Les muscles de ses avant-bras ressemblent à des barres de métal à force de conduire et de tester des machines. Parfois, je rêve des bras de Cathy. Je me souviens être entrée dans la chambre des enfants et avoir pris le bébé de ma femme, m'assoupissant un instant dans la chaleur poignante, incroyable de cet enfant sur mes genoux. En retournant à la cuisine, j'y ai retrouvé Yuriko qui se préparait un casse-croûte tardif. Ma fille dévore comme un grand danois. Yuki, dis-je, penses-tu que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme ? Elle toussa d'un air moqueur. Et pourquoi pas d'un crapaud de 3 mètres de haut ? Répliqua mon enfant avec tact. Mais les hommes arrivent à temps passé. Ces derniers temps, je veille beaucoup et je m'inquiète de ces hommes qui viendront sur cette planète. Je m'inquiète pour mes deux filles et pour Beta Katharinson. Je me demande ce qui arrivera à Cathy, à moi, à ma vie. Les journaux de nos ancêtres ne sont qu'un long cri de peine et je suppose que je devrais être heureuse à présent. Mais on ne peut pas rejeter ainsi 6 siècles, ni même, comme je l'ai découvert récemment, 34 ans. Parfois, je ris de la question que ces 4 hommes brûlaient de nous poser toute la soirée sans oser jamais la formuler vraiment, nous regardant les unes après les autres, gaillardes en salopettes, fermières en pantalons de toile et chemises flottantes. Lesquels d'entre vous jouent le rôle de l'homme ? Comme si nous devions produire un double au carbone de leurs erreurs. Je doute très fort que l'égalité sexuelle ait été rétablie sur Terre. Je n'aime pas penser que l'on puisse se moquer de moi, ni que Cathy puisse être considérée comme faible, ou que Yuki doive se sentir peu importante ou bête, ou encore que mes autres enfants soient volés de leur complète humanité ou deviennent des étrangers. Et j'ai peur que mes propres exploits soient détournés de ce qu'ils étaient ou de ce que je croyais qu'ils étaient, jusqu'à n'être plus qu'une curiosité banale de la race humaine, une bizarrerie comme on peut en voir sur le dos des livres, une bagatelle dont on rit parfois à cause de son caractère exotique, baroque, mais pas impressionnant, charmant, mais pas utile. Je trouve cela plus douloureux encore que je ne pourrais le dire. Il faut admettre que pour une femme qui s'est livrée à 3 duels, 3 mises à mort, il est grotesque de s'abandonner à de telles frayeurs. Mais le combat qui m'attend à présent est si terrible que je ne pense pas avoir le courage de l'affronter. Comme le dit Faust, « Wer weil dor, du bist so schön, reste ainsi, ne change pas. » Parfois la nuit, je pense au nom original de cette planète, modifié par les premières générations de nos ancêtres. Ces femmes singulières pour qui, je suppose, le vrai nom évoquait un souvenir trop douloureux après la mort des hommes. Je trouve amusant, dans le sens macabre, de le voir si complètement détourné. Ceci aussi passera. Toutes les bonnes choses ont une fin. Prenez ma vie, mais n'emportez pas le sens de ma vie, pour un temps.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de La Pleine Lune, l'émission des femmes qui bougent. C'était une nouvelle de Joanna Russ, intitulée « Lorsque tout changera ». Joanna Russ est née dans le Bronx, à New York. Elle est maître assistant d'anglais à l'Université du Colorado et conférencière. Elle n'écrit pas seulement de la science-fiction, mais aussi des pièces de théâtre. Sa première nouvelle a été publiée en 59, depuis elle en a publié une quarantaine. Et plusieurs romans, dont en français « Pique-nique au paradis » et « L'autre moitié de l'homme » aux éditions Robert Laffont, Ailleurs et demain, 1977. Cette émission de La Pleine Lune prend fin. Elle se répétera toute la journée jusqu'à 23h ce mercredi. Elle sera interrompue à 19h pour les nouvelles ainsi qu'un communiqué du comité contre le viol. Que celles qui ne pourront être à l'écoute à 19h ne se désolent pas, ces nouvelles repasseront mercredi prochain à 9h.
Teresina la malcontenta, babbo gode, mamma stenta. Babbo va all'osteria, mamma tribola tuttavia. Babbo mangia l'erba, le becotte, mamma tribola giorno e notte. Babbo mangia e beve vino, mamma tribola col cittino. Babbo mangia li fagioli, mamma tribola coi figlioli. Babbo mangia il baccalà.